Salut Pierre-Yves.
Salut Patrick.
OK, ça c'est un débat qui est, j'allais dire, vieux comme le monde, mais qui dure depuis longtemps en fiscalité et en politique, là. Est-ce qu'on ne devrait pas baisser les impôts et taxer davantage la consommation?
Et Patrick, je commençais ça par une opinion personnelle. Je vais te demander, toi, qu'est-ce que tu préférais?
Ah, moi, écoute, je préférerais qu'on finance mieux les services de l'État.
Oui, mais de quelle façon, toi, comme consommateur, là, comme contribuable?
Écoute, globalement, là, tu sais, je regarde les changements sur l'impôt dans le revenu, OK? Il y a 50-60 ans, là, la plus grande proportion des revenus de l'État, si je me trompe pas, là, ça venait des industries, des compagnies, etc. Après ça, ça s'est inversé proportionnellement. Le fardeau est tombé sur les épaules des individus. Puis je pense qu'on a tous un peu perdu là-dedans.
Ben, en fait, c'est surtout une question de, comme individu, tu pourrais te dire, « Hey, moi, je préfère la taxe à la consommation parce que je vais juste moins consommer. »
Oui.
Parce que ça, c'est l'autre affaire. C'est que quand on commence à taxer davantage la consommation, on prend pour acquis que les gens consomment régulièrement, mais lorsque tu t'embarques la fiscalité là-dedans, il y a plein de bémols. Comme par exemple, il y a un gars de construction qui vient chez vous, c'est 15% de taxes, là, ça tombe à 16, 17, 18, là, c'est près de, oups, attends une minute, là, ça commence à me faire mal, puis là, tu deviens de connivence avec la personne. Et t'encourages le consommateur à frauder implicitement. De l'autre côté, quand t'as trop d'impôts, comme présentement, on a beaucoup d'impôts sur les revenus, ça encourage pas le monde à travailler davantage. Ils disent, tant qu'à travailler une heure de plus à 53,31%, je vais laisser faire. Et l'autre point, c'est, sur la taxation, c'est l'iniquité. C'est-à-dire, quand t'es une personne de 50 ans, disons, que t'as ta maison, que t'as ton set de salle à dîner, ta laveuse, ta sécheuse, t'as tous tes équipements, puis t'as cet avantage-là, ben t'as moins besoin de consommer qu'un jeune qui fait son trousseau. Là, je donne un exemple. Donc, plus t'as d'actifs, plus les gens te donnent des actifs, parce que tu pourras aussi avoir des cadeaux, moins tu payes de taxes quand c'est basé sur la consommation davantage. Tandis que quand c'est basé sur le salaire, t'en gagnes une année, t'en payes, peu importe ce que tu fais avec. Alors, taxer la consommation encouragerait l'épargne, je ne peux pas être contre, mais créerait un peu de distorsion à ce niveau-là. Par contre, Patrick, il y a un rapport Godbout qui est sur la tablette depuis des années.
Le rapport Godbout du nom du chercheur Luc Godbout
de
Sherbrooke.
De la chaire de Sherbrooke. Et M. Lighthouse est supposé de mettre ça en place, tu comprends, mais ça prenait non seulement du courage politique pour le faire, de dire aux gens, on va vous taxer moins, mais plus vous imposer moins, mais plus vous taxer à la consommation. Il aurait fallu aussi une entente avec les autres provinces pour pas avoir des trop gros écarts. Et donc, réformer la fiscalité, c'est pas évident. L'autre point aussi, c'est que tu dis, OK, d'un point de vue société, on aime des fois plus le statu quo que la logique. Je te donne un exemple. Les garderies, là, on veut les subventionner. On dit, ah, faut les subventionner, faut aider les familles. Parfait. Si je dis aux gens avec une étude d'une chaire de recherche qui dit, hey, savez-vous quoi? Selon la fiscalité canadienne et québécoise, on serait bien mieux de tout mettre ça non subventionné, faire payer les parents, les payer d'une autre façon, aller chercher l'argent à Ottawa par la déduction fiscale et les repayer par des allocations autrement non imposables. Les parents seraient gagnants. Le monde va être con. Mais pourtant,
parce qu'ils vont devoir débourser un montant.
Que je vais leur donner autre part, je vais leur donner d'une autre façon. Mais ça va changer la perception de la gratuité actuelle. Alors, Patrick, le gouvernement Legault est au courant. Le gouvernement Couillard est au courant que le mieux pour les Québécois, c'est qu'on aille chercher l'argent du fédéral. Et donc, qu'on met une déduction de notre revenu qui nous permet d'avoir plus d'allocations canadiennes pour enfants et plus de déductions de frais de garde. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas populaire de sortir publiquement puis de dire « On va mettre des garderies privées, on va vous payer autrement, là, ça vous coûtera pas plus cher au net fiscal, mais on subventionnera plus les garderies directement de l'État parce qu'on perd la déduction fédérale pour les particuliers. » Mais là, les gens, ils veulent pas entendre ça, Patrick. C'est comme si tu leur dis « La logique fiscale, c'est ça. Ouais, mais j'ai plus ma garderie subventionnée. »
Ce que tu nous dis, c'est que dans la fiscalité, il y a de la psychologie.
Ben oui, il y en a. Puis tu sais, il y a aussi des ententes. Puis il y a aussi ce qu'on juge selon notre référent comme juste et pas juste. Mais quand tu regardes le net fiscal, ce que Luc Godbout nous dit avec toute la chair, c'est de dire « Écoutez, le gouvernement à long terme va avoir des problèmes de finances publiques. » Et d'un point de vue logique fiscale, ce serait plus logique d'avoir plus de taxes à la consommation et moins d'impôts sur le revenu. Mais y a-t-il un gouvernement vraiment qui va faire un plan politique, qui va débarquer en élection, qui va dire « Nous, on va monter la TPS, la TVQ, et, ben une des deux, là, et nous allons réduire les impôts de quelques points de pourcentage. » Et là, tu vas avoir des groupes de pression d'un bord, des groupes de pression de l'autre côté. On aime beaucoup mieux un statu quo inconfortable qu'une incertitude peut-être un petit peu plus confortable. Parce qu'on est habitué dans notre chaise, on est bien. On ne va pas bouger.
On aime ce qu'on connaît.
Exact.
OK, parle-moi de bonnes raisons d'investir en bourse, malgré le niveau élevé des indices.
En fait, je vais y aller par la négation, parce que j'ai le même dilemme que tout le monde. Je dis, mon Dieu, les indices boursiers sont tellement élevés, Patrick. Qu'est-ce que je fais avec mon économie mensuelle? Puis là, il y a des gens qui me demandent, est-ce que je devrais investir? Je ne peux pas répondre, mais je vais vous répondre par la négative. C'est impossible de timer le marché, de savoir quand est-ce qu'il va être haut, bas, monter, descendre. Et donc, si vous investissez à chaque mois, c'est la seule façon d'être sûr d'avoir les hauts et les bas. Deuxième point, si vous investissez pas, que faites-vous avec votre argent? Le fameux coût de renonciation dont je te parlais hier. Si tu as des dettes à 20%, c'est vrai que tu es mieux de payer ça. Mais si tu as une hypothèque sur ta maison à 1,4% ou tu as un immeuble à revenu, est-ce que tu veux vraiment payer d'avance puis perdre la déduction des intérêts? Même chose avec ton prêt étudiant, ça donne un avantage fiscal. Veux-tu vraiment le rembourser de façon anticipée au lieu d'investir? Peut-être pas. Troisième point, plus on investit, plus on a une chance de diversifier. Plus la vie avance, plus c'est le fun d'avoir ses pions un peu partout. Parce que quand on a besoin de sources de revenus, on est en paix. Tu sais, t'arrives à 50, 55 ans, t'as un peu de prêt sur ta maison possible pour aller chercher du capital si t'en as besoin. T'as un peu de placement boursier qui t'amène des dividendes peut-être. T'as des actifs en garantie au cas où il t'arrive de quoi. T'as quelque chose, t'as des flux monétaires. T'es peut-être actionnaire de Bell Canada, donc de BCE, puis t'as un dividende régulier. Quatrième raison, évidemment, si jamais tu places pas ton argent puis tu rembourses pas tes dettes, ça veut dire que tu le laisses dormir. À part les gens de Laval dans le domaine de la construction avec des coffrets de sécurité à la banque.
Qu'est-ce que tu veux dire?
À l'époque.
Ah
oui, 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 okay. Excuse-moi, Patrick, je veux pas insinuer.
À l'époque où on prenait des billets de 50 $ pour qu'on les flushait dans les toilettes quand la police cognait à la porte.
Là. Exact. Okay. Tu sais qu'il y a même des gens qui sont allés se plaindre. Il y avait une banque qui avait été défoncée, hein, des coffrets de sécurité. Puis il y avait des gens qui étaient allés se plaindre. Hey, j'avais de l'argent en cash, moi, dans un coffret de sécurité. Ah oui, qu'est-ce que ça faisait là? C'était pas un bon placement, tu sais. Et donc, à moins que tu fasses ça, il n'y a pas de logique de laisser de l'argent dormir, donc il faut bien l'investir quelque part. Et le dernier point bien important, Patrick, c'est que les avantages fiscaux sont liés à qui? À l'investisseur. Je te donne une déduction réelle si tu investis. Je te donne l'abri fiscal de CELI si tu investis. Je te donne un REEE si tu investis. Je te donne le droit de déduire des intérêts sur ton immobilier si tu investis, dans le fond. Si tu investis, tu as le droit de déduire, tu as le droit d'avoir des crédits d'impôt. Donc, les avantages sont là.
Si tu investis, ce serait un bon titre de livre pour,
Patrick,
pour ton prochain essai.
La dernière fois qu'un animateur m'a dit un titre de livre, je l'ai mis dessus.
Ça a marché.
En as-tu vraiment besoin?
Eh oui, pas ce don-là,
je te dirais. Ce don incroyable. Okay. Bonne journée.
Salut, on se reparle demain.